Chapitre 22.
Tu m'abandonnes déjà, mon beau nuage noir ?
J'avais oublié. J'ai un rendez-vous.
Galant ?
Professionnel.
Si c'est pour ton avenir.
Le sourire contrit d'Anselme m'accentua les rides et les angles de son visage. Le vieux singe avait établi ses quartiers dans les sous-sols d'un immeuble à l'abandon, transformé en palais de carton. Il consacrait la plus grande partie de son temps à orner sa tanière de guirlandes découpées dans des cartons d'emballage récupérés dans les bennes des supermarchés. Sa demeure comptait une dizaine de pièces minuscules séparées les unes des autres par d'étroits couloirs. Ses chambres d'hôtes, comme il disait. Il hébergeait d'autres SDF au plus fort de l'hiver, jusqu'à 20 personnes, que ses cloisons et ses toits isolaient d'un froid de plus en plus glacial entre les mois de décembre et mars. Réchauffement climatique, mes fesses. Moi j'appelle ça une nouvelle période glaciaire. Il n'exigeait pas de loyer, seulement une contribution en nature, nourriture, vin, médicaments, couverture ou vêtements, ainsi qu'une participation à la réfection et à l'extension de la construction jusqu'à ce qu'elle devienne un palais d'hiver des mille et une nuits. Il savait que son projet ne se réaliserait jamais, que les démolisseurs abattraient l'immeuble aussitôt que l'administration aurait réglé des problèmes de succession complexes, héritiers dispersés sur trois continents, qu'une résidence flambant neuve se dresserait bientôt à la place de l'ancienne construction, que les occupants actuels, les rats et les sans-abri, devraient émigrer vers d'autres cieux. Léonie avait dormi dans l'une des chambres sur un matelas à la propreté plus que douteuse. Elle n'avait pas osé poser la tête sur l'oreiller imprégné d'une forte odeur de moisi et de vomi. Elle avait d'abord regretté d'avoir accepté l'invitation d'Anselme, craignant que le vieux singe au regard malicieux, pervers, lui réclame une contribution en nature, dont la perspective la faisait hoqueter de dégoût. Mais son hôte n'était visiblement pas de l'espèce des temps et des clients de temps de destinée, les porcs. Il offrait seulement de partager un coin de sa modeste utopie avec des invités de passage. Elle s'était enfin abandonnée au sommeil, la tête nichée au creux de son bras replié, lorsqu'elle l'avait entendu ronfler dans une chambre voisine. Les cloisons de carton n'isolaient pas du bruit ni des odeurs. Un peu honteuse de ses mauvaises pensées, elle l'avait remercié le lendemain au réveil. Sans lui, elle aurait passé la nuit dehors et risqué d'être contrôlée par les flics, les vautours, qui patrouillaient dans le quartier jusqu'à l'aube. Il avait préparé un café tout à fait buvable si on n'était pas regardant sur la propreté des tasses. Il lui avait également proposé une baguette fraîche qu'il était allé acheter une heure plus tôt chez son boulanger habituel, ainsi que deux de ses minuscules barquettes de beurre conservées à profusion dans les hôtels et les restaurants. Avachis sur de vieux poufs sauvés d'un recyclage prématuré, ils avaient déjeuné de bon appétit autour d'une plaque de fer rouillée posée sur deux moellons. Léonie avait décidé de rester en compagnie du vieux singe jusqu'à l'heure du rendez-vous avec les hiboux. Elle avait pu se rincer le visage et les mains dans une cuvette après avoir puisé de l'eau dans un bassin de récupération des eaux de pluie. Elle n'avait pas osé procéder à des ablutions plus intimes, malgré la détestable sensation de ne pas être vraiment nette. D'abord, parce qu'il y avait la proximité d'Anselme. Ensuite, parce qu'elle ne voulait pas gaspiller par coquetterie un élément qui allait devenir de plus en plus précieux au fur et à mesure qu'on s'enfoncerait dans l'été. Elle avait contribué à l'entretien et à l'extension du palais de carton en faisant un peu de ménage et en changeant la cloison moisie d'une chambre fixée au sol avec des clous à tête large et aux autres cloisons avec des ficelles ou des fils de fer. On vivait assis ou penché dans un univers dont la hauteur n'excédait pas 1,50 m. Les étourdis se cognant régulièrement la tête aux poutrelles de béton du plafond, on choisissait vite d'évoluer à genoux ou à quatre pattes. Cet aspect maison de poupée ou de hobbit avait un effet rassurant sur Léonie. Elle cessait tout à coup d'errer comme une étoile refroidie dans l'espace infini. Elle touchait des épaules, des fesses et du crâne les frontières de son monde, comme si le monde devait se replier à ses dimensions pour qu'elle puisse enfin l'occuper, y prendre sa place. Anselme n'était pas devenu SDF par accident ou par étourderie. Il avait choisi de vivre des miettes d'une société dont le gaspillage le révulsait. Il avait mis un point d'honneur à ne jamais travailler malgré des études réussies et un avenir qu'on lui promettait brillant. Il n'avait pas cherché à publier les chansons, les poèmes et les pièces de théâtre qui s'accumulaient sur une vingtaine de cahiers grand format, rédigés au stylo plume sans aucune rature. Il avait confié l'un de ses cahiers à Léonie pour qu'elle puisse parcourir quelques-uns de ses écrits. Un privilège qu'il n'accordait qu'à un nombre limité de gens, si limité qu'on pouvait les compter sur les doigts d'une seule main. Comme un mauvais coucheur lui avait sectionné l'auriculaire, ça ne faisait que 4. Elle avait d'abord été émerveillée par l'élégance de son écriture. Une écriture d'écolier appliquée, avec des pleins, des déliés, des arabesques. Puis, envoûtée par la magie de ces mots. Elle ne les comprenait pas tous, mais ils formaient dans sa tête des farandoles joyeuses, gracieuses. Ils s'envolaient comme des nuées de papillons aux couleurs vives. Ils la rendaient légère, presque euphorique. Elle s'était demandé comment un homme à l'apparence aussi délabrée, comment un vieux singe pouvait détenir un tel pouvoir sur les mots. Pourquoi il refusait de partager son trésor avec les autres? Anselme avait répondu qu'il s'arrangerait pour éventuellement faire publier ses écrits après sa mort. Les poètes, quand ils ne mouraient pas avant d'être connus, devenaient des emmerdeurs gavés de gloire, des habits verts, des imposteurs. Le refus était l'essence même de la poésie. Le refus transperçait les illusions comme une pointe de sabre. Le refus permettait à l'homme de briser ses chaînes et de renaître au monde vrai, là où le temps cessait d'exister, là où l'être se révélait dans toute sa dimension. La richesse, les honneurs, la reconnaissance obscurcissaient l'esprit, alourdissaient le corps, brisaient l'envol. Le poète n'était pas maudit, seulement condamné à l'ascétisme. Anselme avait connu des jours difficiles dans les rues, des nuits d'une solitude si féroce qu'il en était presque devenu fou, et pourtant, pour rien au monde, il n'aurait renoncé à cette vie d'errant. Jamais il n'aurait troqué les minuscules fragments d'inspiration offerts par le ciel pour un confort de tous les instants. Ne possédant rien, il régnait sur la terre et le ciel. Il visitait les astres lointains et les créatures étranges du fond des océans et les labyrinthes ténébreux de la nature humaine et les cœurs brûlants des déserts. De ceux qui le regardaient avec pitié et de lui qui les regardait avec compassion, qui était le plus malheureux? Le vieux singe et son invité avaient dépensé la journée en discussions entrecoupées de fous rires et de deux repas composés de pain, de fromage, de pâté de foie, de vin rouge et de café. La nuit était tombée avec une lenteur d'équinoxe, escamotant peu à peu le palais de carton. Léonie s'était sentie si bien en compagnie d'Anselme qu'elle n'avait pas vu s'enfuir les heures. Elle s'était brusquement souvenue de son rendez-vous avec les hiboux. Elle avait regardé l'écran de son téléphone portable. 22-52, plus de temps à perdre. « Tu reviendras me voir, jeune fille. »« J'espère. » Une ombre avait glissé sur le visage d'Anselme. « Je crois, moi, que tu ne reviendras pas. »« Pourquoi tu dis ça ?»« Nos destins. Je sens qu'ils se séparent. »« C'est un don. Je sais quand les gens me quittent définitivement. » Léonie s'accroupit pour déposer un baiser sur le front du vieux singe. L'odeur de crasse, d'urine et de vin ne l'écœura pas. Je ne t'oublierai pas. Elle se déplia enfin en sortant de la cave, traversa la cour et fila d'un pas rapide vers le bâtiment délabré, distant d'une centaine de mètres. Le hibou était seul, celui à la mine sinistre et aux cheveux en pétard que Léonie n'aimait pas. Les poignets à mi-donnée de sa chemise noire dépassaient des manches de sa blouse blanche. On aurait dit qu'il avait grandi trop vite et que ses parents n'avaient pas eu le temps de lui acheter de nouveaux vêtements. Il semblait inquiet, nerveux. Ses yeux voltaient sans cesse d'un point à l'autre, des mouches dans un bocal. Il avait fondu sur Léonie à peine avait-elle franchi la porte de l'immeuble et lui avait demandé d'un ton rogue pourquoi elle était en retard. 23-03, pas la mer à boire. Ne lui laissant pas le temps de répondre, il l'avait entraînée dans les couloirs tapissés de métal. Ils avaient franchi au pas de course les différents sas grands ouverts qui se refermaient derrière eux dans un sifflement prolongé. Après l'avoir introduite dans la salle où trônait le cercueil, il était passé dans la deuxième pièce en la priant d'attendre. Léonie ne céda pas à la curiosité dévorante qui la poussait à jeter un coup d'œil par la porte entrouverte. Le grand hibou revint au bout de quelques minutes et lui débita le baratin habituel. Troisième fois qu'elle expérimentait la molécule. Elle savait donc qu'elle devait impérativement se présenter dans 4 jours à l'heure qu'il lui fixerait bientôt par téléphone. Attention aux effets secondaires, tendance à la schizophrénie, peut-être plus accentuée que d'habitude étant donné la fréquence rapprochée des expériences et le nouveau dosage de la molécule. Pas d'affolement donc, mais si vraiment elle l'estimait nécessaire, elle pourrait le joindre à n'importe quel moment du jour et de la nuit sur le numéro qu'il lui donnerait à la fin de la séance avec le premier versement des 300 euros. Il approcha ensuite l'escabeau de la table. Demanda à Léonie de retirer son blouson, de dégager son bras et s'installer dans le cercueil. Elle s'exécuta, bien qu'une petite voix alarmiste lui cria de foutre le camp sans perdre une seconde. Elle avait besoin d'argent, au moins pour survivre quelques mois supplémentaires dans le pays gris des blancs et se donner le temps de la réflexion. Le hibou la coiffa du casque lumineux, Toujours cette sensation de deux soleils éblouissants s'allumant à l'intérieur de ses rétines. Toujours ces milliers de lames chauffées à blanc perforant son cerveau. Il lui garrotta le bras avant de procéder à la première injection. Elle sombra presque aussitôt dans un vide sans saveur, sans odeur. Une ombre planait au-dessus d'elle, comme un vautour sur sa proie. Une illusion sans doute, mais elle se débattit, tenta de s'enfuir. Elle ressentait le même genre de frayeur que dans les rêves, plus vrai que la réalité. L'ombre fondit sur elle. Ligotée, elle ne pouvait lui échapper. Elle fut envahie d'un grand froid. Un viol plus douloureux que les pénétrations brutales des clients de tant de destinées. C'était son âme qu'on touchait, sa part intime qu'on profanait. Elle ne s'appartenait plus. Elle se révolta, protesta, mais ses hurlements s'évanouissaient dans le vide. Personne ne pouvait l'entendre, ni voler à son secours. L'autre, l'envahisseur, l'esprit mauvais, l'araignée, la rongerait de l'intérieur et la disperserait dans l'abîme sans que les hommes remarquent sa disparition. Pourtant, elle aussi appartenait à l'espèce humaine. La petite Léonie que tant de destinées, la hyène, avait arrachée à la terre d'Afrique pour la livrer au désir lubrique des hommes blancs, les porcs. Le visage du hibou était penché sur elle, visiblement inquiet. « Est-ce que ça va, mademoiselle ?» Elle répondit d'un mouvement de tête, l'armature du casque lui irritait le front et les tempes. « Vous avez mis plus de temps que d'habitude à revenir à vous, » ajouta le hibou. « Et vous vous êtes agité. » Vous m'avez fait peur. Vous allez bien, vous en êtes sûr ? » Léonie resta quelques instants attentive aux réactions de son corps. Elle ne ressentait aucune douleur, seulement des vestiges d'angoisse dans la gorge et au niveau du plexus solaire. Elle ne percevait plus la présence de l'ombre, de l'esprit mauvais. Elle acquiesça d'un deuxième hochement de tête. « Ne bougez pas, je reviens. » Le grand hibou disparut quelques instants dans la deuxième salle. Un silence inhabituel pesait sur le bâtiment. Léonie n'osait pas retirer le casque blessant. Elle pensait à Denis, son grand corps allongé dans le grenier du squat, son visage figé et paisible, violente envie de pleurer. Le hibou revint, referma soigneusement la porte derrière lui et l'aida à se relever. Une fois débarrassée de son casque, elle s'éjecta du cercueil et dévala l'escabeau, à la fois soulagée, légère, et extrêmement faible, sans consistance. Une asthénie probablement due au produit injecté par le technicien. Il griffonna un numéro de téléphone sur une petite carte blanche et la lui tendit, posée sur une liasse de billets de 20 euros. « En principe, c'est moi qui vous appelle le premier pour vous fixer le prochain rendez-vous. Vérifiez bien que votre portable est chargé. » Léonie fourra les billets et la carte dans son sac. « Pourquoi vous faites ça en pleine nuit ? » demanda-t-elle. « La concurrence, » répondit-il d'un ton lugubre. « Nous sommes obligés de prendre toutes les précautions. Je vous accompagne. Soyez prudente, on ne fait pas toujours de bonnes rencontres à 3 heures du matin. »« Trois heures du matin ? Vous avez mis plus de 3 heures et demie à vous réveiller. » Léonie avait cru s'être endormie 10 minutes, pas davantage. Sa surprise arracha au hibou un sourire vaguement complice. « Allons-y, je dois fermer le labo. » Il l'escorta jusqu'à la porte de l'immeuble. Les lumières s'éteignaient et les sas coulissaient sur leur passage. « Je suppose que vous savez où aller ?» Elle n'en avait aucune idée. Pas question de retourner chez le copain de Tania, le Lamentin et la Panthère, l'association de malfaiteurs. Pas question de revenir au squat, même si elle connaissait le chemin secret de chaque, le guépard. Le souvenir de Denis y était trop présent. Et puis, les keufs, les vautours, surveillaient l'immeuble. Il restait une solution. Le palais de carton d'Anselme. Même si son retour démentait les prédictions du vieux singe, il serait ravi de l'accueillir pour une autre nuit. Il lui raconterait pendant des heures la vie des errants, en partageant le vin aigre et le mauvais pâté. Il lui donnerait peut-être un autre de ses cahiers à lire. Elle prit la direction de la demeure d'Anselme, après avoir salué d'un geste le hibou dont le regard l'accompagna jusqu'à la première courbe. Pas une étoile au-dessus des toits, aucune lumière sur les façades. La ville était à l'image de Léonie, perdue dans les ténèbres. Tout comme la cour intérieure de l'immeuble qu'elle traversa avec prudence. Elle finit par localiser l'entrée de la cave, le soupirail agrandi et consolidé par le vieux singe. Le silence désolé qui ensevelissait les lieux l'inquiéta. À défaut de lampe ou de briquet, elle alluma l'écran de son téléphone portable. il émit une note plaintive, annonciatrice d'une imminente panne de batterie. Il n'y avait pas d'électricité dans la cave. Elle devrait trouver une solution pour le recharger. La tête dans les épaules, les genoux fléchis, elle parcourut l'étroit couloir entre les cloisons de carton. De plus en plus oppressée, elle visita plusieurs chambres avant de trouver celle d'Anselme. La tête du vieux singe posée sur l'oreiller émergeait d'un duvet gris mille fois ravaudé. Une odeur âpre assaillit les narines de Léonie. La lumière baissa. La batterie lança un nouveau signal d'alerte. Un bruit léger d'écoulement incisait la pénombre. Elle approcha son téléphone du visage d'Anselme. La tête du vieux singe avait basculé en arrière. Une plaie béante lui ouvrait le cou d'une oreille à l'autre. Des gouttes visqueuses continuaient de s'écouler de l'entaille. Elle souleva un coin du duvet. Une nappe de sang luisant, encore liquide, tapissait le matelas dépourvu de drap. Elle rabattit précipitamment le duvet avant de se jeter en arrière, glacée d'effroi. Le portable s'éteignit après une dernière plainte. On n'avait pas égorgé Anselme depuis très longtemps, le sang n'était pas encore sec. L'assassin n'avait peut-être pas vidé les lieux. Un souffle. Puis un craquement un peu plus loin. Malgré les vagues de terreur qui déferlaient en elle au rythme de ses pulsions cardiaques, elle s'arrêta machinalement de respirer. À cet instant, une voix s'insinua dans le silence tendu de la nuit. Une voix qui s'élevait en elle avec une netteté saisissante.